Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la Sainte Sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر Allahi qarib. Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment? Thank you.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonjour et bonsoir, chers amis auditeurs, selon l'heure que vous nous suivez. En ce mercredi 21 avril 2021, j'ai le grand plaisir de vous présenter le journal, suivi d'un commentaire politique. Avancée surprise d'Ansar Allah, au sud et à l'ouest. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. Au sommaire de ce journal, l'Iran rejette l'option JCPOA+, déclaration ce matin du président Rouhani. Relance de l'accord nucléaire de 2015, le négociateur iranien Abbas Araghchi rejette la notion d'accord temporaire. Et puis l'armée yéménite a lancé une nouvelle attaque contre l'Arabie saoudite en représailles à la guerre en cours du royaume contre le pays. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Merci d'être avec nous. Bienvenue à tous. L'Iran rejette l'option JCPOA+, déclaration ce matin du président Rouhani. Le président de la République islamique d'Iran a déclaré mercredi que la seule solution acceptable au dossier nucléaire iranien est la mise en œuvre de l'accord nucléaire existant, ni moins ni plus. S'exprimant lors d'une réunion ce mercredi du cabinet, le président Rouhani a déclaré « La seule solution acceptable au dossier nucléaire iranien est de mettre en œuvre du JCPOA. Il est évident pour tout le monde, pour les 15 plus 1, l'Europe et la région, que l'accord nucléaire existant doit être mis en œuvre avec précision par toutes les parties engagées. » Hassan Rouhani a déclaré que Téhéran reviendrait au plein respect de ses obligations une fois que les États-Unis lèveront toutes les sanctions qu'il a imposées à l'Iran. Hassan Rouhani a ajouté que l'Iran devait d'abord vérifier la suppression des sanctions. Il a déclaré que l'Iran suspendrait alors toute activité qui pourrait ne pas être conforme à l'accord nucléaire de 2015 et respecterait pleinement ses engagements. Le président a réaffirmé que la meilleure façon de régler l'impasse sur l'accord nucléaire iranien est de mettre pleinement en œuvre l'accord. Ailleurs dans ses remarques, Hassan Rouhani a évoqué les difficultés que les sanctions US ont causées, en particulier pour l'économie et le secteur médical du pays. Il a déclaré que les sanctions avaient entravé et retardé les efforts de Téhéran pour acheter des vaccins contre le coronavirus en cette période de crise sanitaire. L'actualité iranienne est dominée par l'accord nucléaire, relance du JCPOA. Araghchi, le principal négociateur, rejette la notion d'accord temporaire. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré mardi à Vienne que l'Iran ne permettra à personne de transformer les négociations nucléaires en négociations prolongées ou d'usure, mais ne négligera pas les questions sensibles en raison d'une trop grande précipitation. Tout va vers le but, sous un examen attentif, a-t-il souligné. Le négociateur principal de l'Iran, qui doit entamer des pourparlers visant à une éventuelle reprise de l'accord nucléaire de 2015 entre la République islamique et les pays du monde, rejette catégoriquement l'idée que le pays pourrait se contenter de tout accord temporaire tout en participant aux négociations. Contre les fausses informations dans certains médias occidentaux, le vice-ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi a insisté sur le fait que les négociations en cours entre l'Iran et les 4+1 ne comportaient aucun point de discussion tel qu'un accord temporaire ou des sujets similaires. Araghchi a souligné que l'Iran n'utilise les pourparlers que pour discuter du potentiel de cette dernière étape vers l'élimination des sanctions oppressives. Par conséquent, toute rumeur suggérant la probabilité d'un modus vivendi ou d'une attitude de pas pour le rétablissement de l'accord sur le nucléaire devait être exclue, a de nouveau insisté le responsable. Le négociateur a également rappelé un avis du leader de la révolution islamique, l'ayatollah Sayyid Ali Khamenei, dans lequel il a récemment mis en garde contre l'enchevêtrement de l'Iran dans de longues négociations. De l'Iran en passant par le Yémen, la résistance vous attaque sans relâche et ceci va se poursuivre. Le commandant en chef de la force haute du corps des gardiens de la révolution islamique CGRI, le général Rouhani, déclarant que les fronts de la résistance chaque jour infligent des coups durs aux États-Unis et à Israël, a déclaré « Le chemin du général Martir Hejazi dans le domaine de la résistance se poursuit ». Déclarant que le général Martir Hejazi, avant la révolution, avait été l'un des combattants les plus éminents contre le régime tyrannique de l'ennemi sur les champs de bataille et qu'il avait été présent dans divers domaines pendant la révolution et les 8 années de la défense sacrée, il a ajouté « En tant que commandant des forces de la résistance du Basij, il a dirigé cette force pendant 10 ans, cette force qui est l'épine dorsale de la révolution islamique ». Le général Rouhani a poursuivi « La portée des activités et des réalisations du martyr Hejazi est à tel point que les dirigeants de la résistance, de Sayyid Hassan Nasrallah à Hanifa et d'autres dirigeants ont envoyé des messages de condoléances au guide suprême de la révolution. Le leader de la révolution, l'honorable Ayatollah Khamenei, dans son message, a aussi qualifié le général Hejazi d'un combattant avec un esprit dynamique et ayant eu une foi qui est restée tout au long de sa vie intacte. » La Serbie souhaite des relations économiques plus intenses avec l'Iran, réaffirme le ministère des Affaires étrangères. Le ministre serbe des Affaires étrangères, Nikola Selaković, a évoqué les relations politiques étroites en son pays et l'Iran et a déclaré qu'elles se situaient à un niveau élevé, exprimant son espoir que les relations économiques connaîtront un développement ultérieur à la lumière de la volonté des autorités des deux pays. S'exprimant à l'occasion d'une interview exclusive accordée à l'IRNA, Selaković a déclaré, je cite, « Je profite de l'occasion pour exprimer mon espoir que vous allez trouver un accord pour sauver l'accord nucléaire dès que possible », a-t-il ajouté. « C'est vraiment important, non seulement pour votre pays, mais pour la région et pour le monde entier », a-t-il noté. Faisant référence à sa rencontre avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, l'autre haut diplomate a déclaré « J'ai été informé hier par mon cher collègue homologue sur le processus des pourparlers à Vienne et je veux juste vous dire que nous vous souhaitons beaucoup de chance pour réussir ces pourparlers. » Parallèlement à cela, la Serbie a un dialogue avec Pristina concernant le Kosovo et Metokia et je voudrais exprimer une fois de plus notre gratitude à la République islamique d'Iran pour son soutien permanent fondé sur des principes à la Serbie, a-t-il réitéré. Le très haut diplomate serbe est arrivé samedi à Téhéran. L'Iran, attaché aux idéaux de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, déclaration du vice-ministre iranien des Affaires étrangères lors de sa rencontre avec le directeur général de l'OIAC. L'Iran condamne l'utilisation d'armes chimiques partout dans le monde et en toutes circonstances et attaché aux idéaux de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, a déclaré le vice-ministre iranien des Affaires étrangères. En marge de la 25e conférence annuelle des États signataires de la Convention sur les armes chimiques, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, a rencontré Fernando Arias, directeur général de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. L'actualité régionale avec le Yémen. L'armée yéménite a lancé une nouvelle attaque contre l'Arabie saoudite en représailles à la guerre en cours du royaume contre le pays. Le porte-parole de l'armée yéménite, Yahya Sari, a déclaré que l'armée de l'air avait mené une attaque de drones contre l'aéroport international d'Aba. Il a dit qu'un site militaire important y a été ciblé et que le coup était précis. L'Arabie saoudite a déclaré avoir intercepté un drone explosif tiré sur une ville près de l'aéroport d'Aba. Le royaume et ses alliés ont lancé leur guerre contre le Yémen il y a 6 ans. Jusqu'à présent, des dizaines de milliers de yéménites, pour la plupart des civils, ont été tués. Le Yémen affirme que ces attaques de représailles se poursuivront jusqu'à ce que l'Arabie saoudite mette fin à son agression et son blocus total inhumain. Les États-Unis ont déclaré qu'ils prévoyaient des pourparlers pour repositionner certaines de leurs troupes dans les pays voisins de l'Afghanistan après leur retrait du pays asiatique. Le chef du commandement central américain a déclaré que Washington souhaitait maintenir ses forces dans la région afin de maintenir, je cite, « la pression et la surveillance sur les extrémistes violents ». Kenneth McKenzie a ajouté que le Pentagone envisageait des options pour continuer à surveiller et potentiellement attaquer ces groupes depuis des pays voisins. McKenzie, cependant, n'a pas nommé de nation spécifique pour le repositionnement des troupes américaines. Les États-Unis comptent actuellement près de 2500 militaires déployés en Afghanistan. Les dirigeants d'un parti politique au Pakistan ont annulé les manifestations pour protester contre la publication de caricatures blasphématoires du prophète Mohammed par un magazine français. La décision de Tahrik-e-Labbaik du Pakistan est intervenue après que le parti a appris qu'une résolution serait discutée au Parlement sur l'expulsion de l'ambassadeur de France à Islamabad. L'OTLP mène une campagne anti-France depuis des mois, depuis que le président français Emmanuel Macron a apporté son soutien au magazine satirique controversé Charlie Hebdo en republiant des caricatures sacrilèges du noble prophète de l'islam, le très vénéré Mohammed. Les manifestations ont éclaté en violence la semaine dernière après que le chef du TLP ait été arrêté pour sa demande d'expulser l'ambassadeur de France. Ces gestes islamophobes depuis la France ont suscité l'indignation du monde musulman. Autre thème, la Ligue arabe, l'ONU, l'Union européenne et l'Union africaine ont appelé au retrait immédiat et inconditionnel de toutes les forces étrangères et mercenaires de Libye. Dans une déclaration conjointe, le soi-disant Quatuor pour la Libye a rejeté l'intervention militaire étrangère en Libye, le qualifiant d'inacceptable. L'ONU estime qu'il y a environ 20 000 soldats étrangers qui combattent pour divers belligérants en Libye. Selon les experts onusiens, les combattants sont originaires de la Turquie, de la Russie, du Tchad, du Soudan et de la Syrie. Le Quatuor pour la Libye a également exigé le plein respect de l'embargo des Nations Unies sur les armes dans ce pays déchiré par la guerre. L'embargo est entré en vigueur en 2011 après le renversement de l'ancien dirigeant Muammar Kadhafi lors d'une opération militaire dirigée par l'OTAN. La Russie a exhorté l'Ukraine et l'OTAN à s'abstenir de toute action susceptible d'aggraver les tensions. Les médias russes, citant les affaires étrangères du pays, ont fait part de la poursuite par l'Ukraine et l'OTAN des agissements militaires dans la région. La réaction russe intervient un jour après que le président ukrainien a appelé son homologue russe à le rencontrer pour apaiser les tensions entre les deux voisins. Ces dernières semaines, Moscou et Kiev ont échangé des reproches pour une flambée de violence dans la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine. Là, les forces pro-russes et les troupes ukrainiennes s'opposent depuis 2014. La Russie a également déployé des milliers de soldats sur ses frontières avec l'Ukraine et en Crimée pour des exercices d'entraînement. La Russie a qualifié le déploiement de réponse aux agissements militaires de l'OTAN qui représente une menace pour Moscou. Le Kremlin affirme que l'intervention de l'OTAN en Ukraine a transformé le pays en un baril de poudre, je cite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment de votre attention et de votre fidélité. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Yémen, avancée surprise d'un Sarala au sud et à l'ouest. Alors que l'armée yéménite et les combattants d'un Sarala ne cessent de progresser sur le front de Ma'arib, les officiers de l'US Navy débarquent dans l'aéroport d'Al-Gaïda, dans la province d'Al-Mahara, à l'est du Yémen, contrôlée par les forces à l'assaut de Riyad. Les attaques répétées contre les bases militaires et les aéroports saoudiens dans le sud de l'Arabie saoudite se poursuivent. Les sources saoudiennes ayant déclaré qu'une série d'explosions avait été entendue à Jizan en même temps que le porte-parole des forces armées yéménites a fait état d'une nouvelle attaque au cours de laquelle un drone KSF-K2 a frappé l'une des principales cibles militaires de la base aérienne du roi Khaled dans la région de Khamis Mouchaït. Nous avons des capacités militaires qui amènent nos forces armées jusqu'au fin fond du territoire saoudien, a déclaré un responsable des comités populaires yéménites en soulignant, comme l'a dit le secrétaire général du mouvement Ansarallah au Yémen, nous avons des capacités qui surprendront l'ennemi. C'est pourquoi nous leur demandons de mettre fin à l'agression. À la suite des attaques contre les cibles situées dans les profondeurs de l'Arabie saoudite, la résistance yéménite a percé une avancée majeure vers le nord-est du barrage historique de Ma'arib pour prendre le contrôle de certaines nouvelles positions précédemment détenues par les forces d'invasion. L'armée yéménite et les comités populaires ont fait de grands progrès dans les opérations militaires dans diverses régions, en particulier à Ma'arib, dont la plupart des régions ont été libérées, a confirmé Hezam al-Assad, membre du bureau politique du mouvement Ansarallah, en faisant prévaloir les grands sacrifices des habitants de Ma'arib. Ayant conduit à de nouvelles progressions dans le camp des combattants yéménites sur le front de Ma'arib, les affrontements qui ont eu lieu au cours des deux derniers jours se sont soldés par la mort de 150 mercenaires de la coalition saoudienne, dont un nombre de commandants, a rapporté la chaîne de télévision Al-Alam. De grandes victoires ont été remportées et de plus grandes victoires seront obtenues. Nous atteindrons la ville de Ma'arib et nous réussirons grâce à Dieu et aux efforts sincères de nos hommes, a déclaré un commandant yéménite. Les affrontements s'intensifient alors que les sources sur le terrain font état depuis 2 jours de l'arrivée d'un certain nombre d'officiers de l'US Navy à l'aéroport d'Al-Gaïda, qui, situé dans la province d'Al-Mahara à l'est du Yémen, est occupé par les forces saoudiennes. Fin janvier, convient-il de rappeler, les forces conjointes américano-britanniques sont arrivées à l'aéroport d'Al-Gaïda. Les agissements des États-Unis et de la Grande-Bretagne dans la province d'Al-Mahara, contrôlée par les forces du gouvernement démissionnaire du Yémen, Abd Rabo Mansour Hadi, soutenu par Riyad, ayant été rendus publics suite à la visite de l'ambassadeur américain au Yémen, Christopher Ansel, à l'aéroport de Gaïda, début décembre 2020.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne, Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Nous allons parler de la France. Et en effet, dans une interview par la chaîne américaine CBS, Emmanuel Macron s'est exprimé sur l'intensification des tensions entre l'Ukraine et la Russie. Et ceci malgré la trêve signée durant l'été 2020. Alors d'abord, la France a souhaité le dialogue, mais la France va toujours plus loin. En plus des sanctions exercées à l'encontre de la Russie par l'Union européenne et les États-Unis, dont la France s'implique directement dans ce conflit en dirigeant la coalition en mer Noire à la place des États-Unis. Alors, vous imaginez un peu cette implication de la France dans ce conflit alors que la France souhaite le dialogue. Alors, la France s'implique également dans d'autres parties du monde, en effet en Golfe Persique et bien sûr en mer Noire. Alors, où va la France, surtout dans sa politique étrangère, et où est vraiment l'intérêt de la France dans les jours et les mois à venir? Voilà. Alors, sans plus tarder, je vous invite de regarder un reportage préparé par mes collègues et on sera avec vous juste après. Vous restez avec nous, je vous prie.
Lors d'une interview accordée à la chaîne américaine CBS, dont un extrait a été diffusé le 17 avril, le président de la République, Emmanuel Macron, a une nouvelle fois exposé sa position sur la Russie. Appel au dialogue, mais présentation de cette dernière comme une menace potentielle. Ainsi, lorsqu'il lui est demandé si les sanctions anti-russes que vient de prendre l'administration Biden auront une quelconque influence sur Vladimir Poutine, le chef d'État français défend d'abord l'idée d'une ouverture à l'Est. Nous avons besoin d'un dialogue ouvert et franc avec la Russie, déclare Emmanuel Macron, considérant que le président russe peut être prêt à rouvrir le dialogue. Pour autant, le locataire de l'Élysée ajoute « Nous devons être clairs quand nous ne sommes pas alignés. Et je pense qu'après un comportement inacceptable, effectivement, nous devons sanctionner. » Emmanuel Macron ajoute que cela a déjà été fait. Après l'Ukraine ou après une série de crises qui se sont produites, une référence aux sanctions prises par les Occidentaux après le rattachement de la Crimée à la Fédération russe à l'issue d'un référendum qu'ils jugent illégal, ou aux récentes sanctions de l'Union européenne liées à l'affaire Navalny. Désormais, Emmanuel Macron appelle à définir des lignes rouges claires avec la Russie. Dans le même extrait de l'interview de CBS diffusée le 17 avril, le président de la République résume sa position ambivalente. Les sanctions font partie d'un tout. Je préfère un dialogue constructif, mais pour avoir un dialogue constructif efficace, il faut être crédible. Ces propos ne sont pas sans rappeler ce qu'a pu tenir Emmanuel Macron sur le sujet à différentes occasions depuis sa rencontre avec Vladimir Poutine à Versailles en mai 2017. En décembre 2019, par exemple, le chef d'État français avait présenté la Russie à la fois comme une partenaire, une puissance avec laquelle nous travaillons, et comme une menace sur certains sujets. Ces nouvelles déclarations d'Emmanuel Macron surviennent dans un contexte particulier, celui des tensions dans l'Est de l'Ukraine, qui ont des précursions dans les relations entre l'Occident et Moscou. Alors que les heurts se multiplient entre forces gouvernementales et rebelles dans l'Est ukrainienne, Kiev se dit préoccupé par les mouvements de troupes russes à proximité de sa frontière et en appelle à l'OTAN, avec laquelle des exercices conjoints doivent être menés prochainement. La Russie, de son côté, assure ne menacer personne et rappelle être en droit de disposer de ses troupes comme elle l'entend pour son propre territoire. Moscou dénonce, entre autres, des provocations de Kiev concernant la situation dans l'Est ukrainienne et des activités menaçantes de l'OTAN. Le 16 avril, le président ukrainien Zelensky, la chancelière allemande Angela Merkel et Emmanuel Macron ont appelé afin de parvenir à une désescalade à un retrait des troupes russes près de la frontière ukrainienne. Dans le même temps, le chef d'État ukrainien, à l'issue de discours avec le dirigeant français et allemand, s'est dit ouvert à un dialogue sur ce sujet au format dit de Normandie, réunissant Kiev, Paris, Berlin et Moscou.
Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet en accueillant nos deux chers invités, en commençant par M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
Bonjour à vous et à toute l'équipe, surtout à nos téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de vous retrouver.
Tout le plaisir est pour nous, M. Michel. Et alors, un grand bonjour également à M. Mikhail Gamandi-Egorov, expert des questions internationales. Et c'est un expert russe. Bonjour, M. Egorov.
Bonjour, M. remercie pour l'invitation. Je salue toute l'équipe de Presse TV et également tous vos téléspectateurs.
Très bien, merci à vous. Ma première question va s'adresser à M. Luc Michel. Alors, évidemment, la France prône pour le dialogue avec la Russie. Alors, comment donc faire engendrer le dialogue quand on a des sanctions à l'encontre de la Russie et qu'on dirige une coalition en mer Noire à la place des États-Unis?
Écoutez, il y a un rapprochement spectaculaire de l'administration Biden avec Paris. Paris et Washington ont reconstitué cet axe Paris-Washington qui structure le bloc américano-occidental. Et Emmanuel Macron, c'est pas le Cadiz de Washington, c'est son pitbull. La France est à l'offensive sur tous les théâtres d'opération. Au Liban, en Syrie, en mer Noire, en mer Rouge, dans la côte de l'Afrique. Il faut souligner quelque chose qui est important géopolitiquement, c'est que jadis, la France était la puissance continentale sous Napoléon. Ça s'est terminé le 18 juin. Aujourd'hui, l'impérialisme français, au sein du bloc atlantique, il s'est reconstitué sous forme d'une puissance maritime et ça indique son implication dans tous les conflits maritimes et les conflits. Maintenant, qui provoque les tensions, évidemment, en Ukraine? Les provocations viennent du régime de Kiev qui rêve de détruire les républiques de Lugansk et de Donetsk. Et la France et l'OTAN jouent leur rôle dans ces provocations en excitant le régime fasciste de Kiev. En particulier la France. La France parle de dialogue, elle parle d'apaisement, mais Macron vient de composer devant des rafales français à l'Ukraine. C'est tout le double discours de ce personnage qui ment en permanence aux Français, aux Européens, aux Occidentaux, à ses partenaires.
Oui. Mikhail Egorov, expert russe des questions internationales, livrez-nous, je vous prie, votre analyse sur la question.
Vous savez, je pense qu'effectivement, la France est dans une optique de sous-traitance de la politique états-unienne et plus généralement atlantiste. Je ne crois pas que la France puisse avoir un quelconque rôle constructif dans la crise qui existe en Ukraine, sachant qu'à la base, le résultat des événements qui ont eu lieu en Ukraine lors du coup d'État de 2014, la France y est directement impliquée. On se rappelle tous que la France faisait partie des pays garants, des pays qui ont donné des garanties à l'ex-président ukrainien Viktor Yanukovych avant qu'il soit destitué par un coup d'État armé réalisé par les mains d'extrémistes néo-nazis, donc bandéristes, et tout ça a été applaudi par l'Occident. Donc il y a déjà eu une violation des engagements qui ont été pris, et quand on sait tant que ce qui s'est passé à cette période-là et ce qui s'est passé après, je ne crois pas que la France puisse effectivement jouer un quelconque rôle constructif. Et je pense que c'est le principal à retenir dans cette situation. La France est effectivement, encore une fois, dans une optique de sous-traitance vis-à-vis de Washington. Et cet appel au dialogue auquel Emmanuel Macron fait référence, c'est quand même une approche très hypocrite, parce que cela rappelle effectivement, et cela suit la ligne washingtonienne, c'est un peu comme Biden il y a quelques jours, qui d'un côté appelle à la désescalade avec la Russie, et qu'il veut construire une relation plus honnête et plus constructive avec Moscou, et juste après, de nouvelles sanctions sont imposées visant la Russie, les intérêts russes. Évidemment, cette approche ne fonctionne pas. Et c'est ce que les élites atlantistes, jusqu'à maintenant, n'arrivent pas à comprendre. Ils espèrent qu'ils vont encore avoir l'occasion de poursuivre ce diktat unipolaire, à savoir que le dialogue se fera sur leur base, sur leurs conditions. Cette époque est terminée. L'époque de l'unipolarité est bel et bien terminée. Et à chaque attaque, à chaque agression, la Russie, comme d'autres pays qui sont des partisans résolus du monde multipolaire, vont répondre. On le voit avec la Russie. D'ailleurs, la Russie a commencé dès 2014 à répondre à ces sanctions qu'il a visées. On le voit également avec l'Iran. On le voit maintenant aussi avec la Chine, qui répond aux attaques et aux agressions et aux interférences dans ses affaires intérieures. On le voit avec le Venezuela et d'autres pays qui résistent justement à cet unilatéralisme occidental qui n'a plus lieu d'être dans le monde contemporain. Je pense que c'est les points principaux qu'il faut retenir dans cette situation.
Tout à fait, M. Egorov. Restez avec nous, nous aurons naturellement d'autres questions à vous poser. À présent, je m'adresse à M. Michel. M. Egorov pense que la France ne peut pas jouer un rôle constructif, que ce soit dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie ou bien d'autres, qui est donc très présente, que ce soit en Golfe Persique ou bien en mer de Chine. sans parler bien sûr en mer Noire. Est-ce qu'il serait juste de dire que la France joue plutôt un rôle de provocateur dans ces conflits-là au lieu de prôner un dialogue?
Écoutez, dans le duo Paris-Washington, c'est un peu l'histoire du méchant flic et du bon flic des films de gangsters d'Hollywood. La France, elle joue le rôle du mauvais flic. Elle souffre des provocations que même les États-Unis n'abordent pas. C'est la même chose au Proche-Orient. Rappelez-vous qu'en 2015, François Hollande, c'est Obama qui avait refusé de bombarder la Syrie, mais François Hollande était prêt à y aller. La France est dans une position de confrontation un peu partout. Il ne faut pas oublier non plus dans l'océan Indien, où elle est alliée aux États-Unis et à la marine indienne contre les Chinois. Actuellement, à quoi on assiste? On assiste à la constitution de ce qu'on appelle la guerre froide 3.0. La caractéristique, c'est la reconstitution de blocs géopolitiques. La précédente phase géopolitique ouverte à la chute de l'Union soviétique en 1990, c'était la superpuissance multilatérale américaine. Aujourd'hui, on est rentré, cette période-là est terminée. Face au bloc américain occidental, il y a un bloc de l'Est avec Moscou, avec Pékin, avec Téhéran qui est en train de se constituer, avec tous les pays de l'Organisation de coopération de Shanghai. Le bloc occidental, c'est 1,5 milliard environ d'individus. Le bloc de Shanghai, c'est près de plus de 3 milliards d'hommes et de femmes, en ne comptant pas autour dedans l'Afrique que ce bloc essaye d'attirer à elle. Donc on est entré dans une période de radicalisation et de confrontation, et les puissances de l'Est ne sont plus d'accord de se laisser intimider, tensionner multilatéralement. Les coups seront rendus, que ce soit dans le domaine militaire, c'est le cas déjà dans ce qu'on appelle les guerres par procuration comme en Centrafrique, mais c'est également le cas dans les guerres économiques comme celles des sanctions. Voilà ce qu'il faut retenir. Tout cela, ce sont les prémices de ce qui sera la Troisième Guerre mondiale. La Troisième Guerre mondiale, c'est un sujet tabou en Occident ou en Afrique. Mais les géopoliticiens américains n'ont pas cette pudeur. George Friedman, par exemple, dans son livre, le Next Entretien, Friedman, c'est Strasbourg, et aujourd'hui, Geopolitical Futures, c'est le principal géopoliticien américain. Eh bien, Friedman évoque la Troisième Guerre mondiale qui situe entre 2050 et 2070 et qui voit de nouveau les États-Unis gagner. C'est à cela que nous assistons. Notre génération ne la verra pas, mais cette guerre est inévitable. On sort de 60 ans de paix qui a été assurée par l'équilibre de l'Afrique. Mais maintenant, la doctrine stratégique des États-Unis, elle ne repose plus sur l'équilibre de l'Afrique. Elle repose sur des frappes préemptives nucléaires et sur l'utilisation d'armes nucléaires tactiques sur le champ de bataille, ce qui sera la condition, le déroulement, l'engagement du Troisième Guerre mondiale, parce que ni les Russes, ni les Chinois ne se laisseront faire.
Monsieur Egorov, des mots très forts de la part de Monsieur Luc Michel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos?
Oui, je partage cet avis. Je pense effectivement que dans la perte d'influence évidente du monde atlantique, du monde occidental, qui représente, tout en représentant une extrême minorité planétaire, il veut absolument garder ce diktat sur le reste de la planète. Et quand il voit aujourd'hui que le monde multipolaire est effectivement devenu réalité, que le monde multipolaire non seulement est devenu une réalité, mais en plus aujourd'hui riposte aux agressions qui les vivent, qui visent les pays partisans de la multipolarité. Donc finalement, ça radicalise effectivement en grande partie l'establishment occidental qui voit que la seule option reste de créer, de multiplier les conflits et de créer des zones de tension autant que possible pour déstabiliser la montée en puissance des puissances eurasiennes et plus généralement de tous les pays qui ne sont pas soumis au diktat occidental, au diktat atlantique. Donc effectivement, c'est le cas. Mais comme l'a bien souligné M. Michel, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une optique durant laquelle on observe, on répond par des notes diplomatiques. Aujourd'hui, Moscou, comme Pékin, comme Téhéran, et d'autres pays aussi bien de l'espace eurasiatique, mais aussi d'autres régions du monde. J'avais parlé tout à l'heure du Venezuela, et donc évidemment, il faut aussi mentionner l'Amérique latine et l'Afrique, bien sûr, sans oublier le Moyen-Orient. Aujourd'hui, les nations qui sont opposées à cette tentative de nous faire retourner vers le diktat unipolaire occidental vont riposter, vont répondre, et cela, évidemment, va accroître les tensions. Dans tous les cas, la motivation est bel et bien réelle chez les partisans de la multipolarité. Ils ne comptent plus céder, ils ne comptent plus tolérer cette arrogance et cette hypocrisie qui caractérise l'establishment occidental. Et à chaque attaque, à chaque agression, il y aura une réponse forte, et c'est justement ce à quoi nous sommes en train d'assister aujourd'hui.
Monsieur Luc Michel, les pays en crise ne se laisseront pas faire donc de cette politique américaine qui est de loin donc dirigée des coalitions, mais dans la pratique, c'est plutôt d'autres pays qui dirigent ces coalitions, dont la France. Est-ce que la France est censée de faire exactement ce que les États-Unis donc lui dit?
Écoutez, la France, c'était il y a 60 ans, la France du général de Gaulle, elle s'éloignait de l'OTAN, elle tendait la main à Moscou, à l'Asie, c'était le discours de Mexico, c'était le discours de Compet, c'était la grande politique arabe du général de Gaulle. Depuis François Mitterrand, mais surtout Sarkozy, Hollande et Macron, tout cela n'existe plus. La France est les victimes d'une opération d'emprise des États-Unis. Qui est fait à côté de la Nouvelle-Galie, qu'on appelle la Pitch American Foundation. La Pitch American a pris le contrôle des élites françaises, économiques, médiatiques, militaires et politiques. Dans le premier gouvernement de François Hollande, il y avait deux pensées à une suite de la Pitch American Foundation, donc en Hollande lui-même. Macron, qui est le président le plus américain de l'histoire, c'est un ancien le premier ministre président Philippe également. Macron a défini sa position politique. Il était candidat à l'élection présidentielle. Il s'est exprimé en anglais à la prestigieuse revue anglo-saxonne Monocle, qui est éditée à Londres, à New York et à Hong Kong. Il a dit « Je suis un partisan déterminé de l'atlantisme ». Il a ajouté « La France et les États-Unis » sont des alliés depuis la fondation des États-Unis. Il n'y a pas de raison que cela sorte. Dès lors, c'est un rôle de vassal principal et la France se pétrit de nostalgie géopolitique alors qu'elle a été, je le répète, est une grande puissance entre le soir de Waterloo et 1914, le déclenchement de la Première Guerre mondiale. La France pense encore qu'elle peut jouer un rôle géopolitique mondial en s'abritant sous l'ombre américaine. Depuis une année, l'impérialisme français se redistribue comme une grande puissance maritime. La France, après les États-Unis, a le deuxième domaine maritime mondial, plus de 10 000 km, qui a un livre manifeste qui a été dû à l'amiral Goldfi. C'est un des chefs de la stratégie française. C'est l'ancien patron du porte-avions Charles de Gaulle, et il a fait un livre qui s'appelle Amiral, dans lequel il définit ce projet de la France comme grande puissance maritime. Cette puissance maritime, elle ne peut exister qu'en s'opposant à la Russie, à la Chine, à l'Iran, mais elle ne peut exister que dans le cadre d'un monde dominé par les Américains. Dès lors, la France, évidemment, je l'ai dit, c'est le pitbull des États-Unis, partout où elle intervient, pour déstabiliser, mentir, provoquer, agresser.
Oui. Monsieur Egorov, est-ce que vous êtes d'accord avec Monsieur Luc Michel? Est-ce que l'intérêt de la France est juste? Et est-ce que la France est sur la bonne voie? Donc, les États-Unis mettent la France devant scène. Est-ce que la France va tomber dans le piège?
Vous savez, la France est déjà dans le piège. Et la France est dans le piège depuis déjà un bon moment. Ça n'a pas commencé maintenant sous Emmanuel Macron. On se rappelle de la période de Nicolas Sarkozy, lorsque l'OTAN a agressé et a détruit la Jamaïque libyenne de Muammar Kadhafi. On se rappelle parfaitement que c'est la France de Sarkozy qui avait pris les premiers rôles, si on peut dire ainsi, dans la destruction de l'État libyen et dans tout le chaos que cela a créé, pas seulement pour le peuple libyen, mais pour tous les pays de la région, pour le Sahel aussi, et pour beaucoup de pays africains de façon générale.
Donc de toute façon, la France est déjà dans le piège, parce que l'establishment français, l'élite française, depuis déjà un long moment, est complètement assujetti à Washington. Ces gens-là ne pensent pas aux intérêts du peuple français, ni aux intérêts de la France. Ces gens pensent uniquement à promouvoir l'agenda états-unien. Et aujourd'hui, même si la France et Emmanuel Macron ont fait justement la tentative, essaient de se repositionner comme une puissance internationale majeure, elle n'est pas une puissance internationale majeure. C'est un pays sous-traitant. Donc c'est un pays qui fait tout simplement de la sous-traitance de la politique états-unienne. Et cela se traduit dans différents dossiers, que ce soit dans l'espace eurasiatique, que ce soit dans l'espace lié au monde africain et à d'autres endroits du monde. La France n'est plus une puissance internationale. Et plus que cela, la France ne peut pas être une puissance internationale du moment qu'elle continuera à rester dans ce rôle purement de sous-traitance de la politique washingtonienne. Je pense que c'est tout à fait le principal et je suis entièrement d'avis avec ça.
Monsieur Corot, est-ce qu'il est temps que la France se réveille face à cette politique américaine ?
Bien sûr qu'il est temps. Je pense que ce qui peut nous rendre un petit peu optimistes, c'est qu'on voit que l'opinion publique change. Vous savez, j'ai fait mes études en France et je peux vous dire que si l'on compare la situation au niveau de l'opinion publique de la française de l'époque où j'étais étudiant en France et aujourd'hui, je crois qu'il y a quand même une nette différence. Aujourd'hui, il y a un véritable réveil des consciences, peut-être aussi, pas aussi important qu'à d'autres endroits du monde, notamment en Afrique, mais il n'empêche qu'en France aussi, les gens analysent, réfléchissent et comprennent toute la manipulation dont ils sont victimes de la part de leur establishment politico-médiatique. Donc, bien sûr qu'il est temps. Tant que la France ne reprendra pas sa souveraineté, elle ne sera pas une grande puissance et elle ne méritera pas le respect auquel elle prétend, vers lequel elle tend. Donc, il est bien sûr temps, mais ça, je pense que c'est quelque chose qui revient aux citoyens français de résoudre. Je ne crois pas que cela soit puisse être facile parce que l'establishment qui est en place ne compte rien lâcher. Plus généralement, aujourd'hui, les élites atlantistes, de façon générale, dans les pays concernés, quand s'accrocher jusqu'au bout, ils ne veulent pas que le monde s'effondre, que leur monde, entre guillemets, s'effondre complètement. Ce monde hypocrite où une minorité veut dominer et écraser l'écrasante majorité de la population mondiale. Mais le fait est que l'éveil des consciences auquel on assiste nous donne un peu d'optimisme, y compris dans le cas des pays occidentaux dans la France.
Eh bien, Mikhaïl Gamandi-Egorov, expert des questions internationales, merci infiniment d'avoir participé à cette émission. Un grand merci à M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, d'avoir apporté beaucoup de précisions à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Accord sino-iranien, l'Iran compte en faire une plateforme pour promouvoir l'économie de la résistance. Si le pacte de coopération stratégique Iran-Chine réussit à aider l'économie iranienne à se sauver des pressions causées par les sanctions américaines, le monde entier apprendra comment ne pas céder à l'arrogance des États-Unis. C'est ce qui ressort d'une majeure partie des analyses consacrées à l'accord Iran-Chine. Mais il y a bien plus. En effet, en choisissant de s'allier avec Pékin, l'Iran cherche à promouvoir une économie de la résistance qui l'a aidé à mettre au pas la politique de la pression maximale US, à défier le régime des sanctions US, voire à le rendre totalement stérile et à en faire un tremplin pour affaiblir le dollar. La Chine s'est attribuée le premier rang sur la liste des puissances économiques du monde quant à plusieurs indices, dont la parité de pouvoir d'achat, PPA, le volume d'exportation, l'excédent commercial, etc. Dans le même temps, la Chine est l'unique puissance économique du monde qui est aussi bien capable que motivée pour neutraliser les sanctions économiques des États-Unis. Bien que l'économie iranienne ait déjà survécu les sanctions paralysantes, elle a pourtant besoin d'un marché étranger et d'un immense investissement pour pouvoir gagner sa force. La Chine est en mesure de subvenir à ce besoin. D'autre part,
entretenir une coopération pétrolière avec l'Iran dans une région aussi délicate qu'instable, dont les pays obéissent aveuglément aux États-Unis, paraît efficace à Pékin. Bref, une coopération sino-iranienne est un jeu gagnant-gagnant. Dès que l'accord de coopération de 25 ans entre en vigueur, les sanctions américaines contre l'Iran perdront leur efficacité et l'économie iranienne sortira de l'isolement. D'où les tentatives des États-Unis visant à accéder au contenu du document original afin de bloquer les voies par lesquelles l'Iran pourrait sortir de l'ère des sanctions. S'il échoue, leur plus important moyen d'hégémonie perdra son efficacité. Mais il y a bien plus. En signant un pacte avec la Chine, l'Iran cherche surtout à étendre à l'échelle internationale sa théorie dite « économie de la résistance », une économie qui l'a largement aidé à amortir la pression maximale US, à lui faire échec et en plus à aider les pays alliés comme le Venezuela. C'est à ce dernier aspect, très probablement, qu'un commentateur de médias d'État chinois faisait référence lorsqu'il a déclaré que l'accord signé avec l'Iran bouleverserait totalement le paysage géopolitique dominant dans la région de l'Asie occidentale qui a si longtemps été soumise à l'hégémonie des États-Unis. Et comment ? La Chine compte tout simplement porter sa contribution à la promotion de l'idée de l'économie de la résistance, bien qu'elle ait cultivé elle-même une forme très particulière de libéralisme. La Chine compte porter sa contribution à la promotion de l'idée de l'économie de la résistance de l'Iran. Pour les deux parties iraniennes et chinoises, il ne s'agit pas seulement de signer un pacte de commerce et d'investissement, ni d'une simple entraide entre alliés. La résistance réside précisément dans la manière dont ils essayent de s'entraider. Il s'agit d'un mode de développement économique. Il représente la notion selon laquelle toute ressource génératrice de rente, monopole bancaire, foncier, ressources naturelles et infrastructures naturelles devrait appartenir au domaine public afin de répondre aux besoins fondamentaux de tous, gratuitement. L'alternative consiste simplement à privatiser ces biens publics, comme en Occident, où ils sont fournis à un coût maximal financiarisé. Les taux d'intérêt, les dividendes, les frais de gestion et les manipulations d'entreprises pour le gain financier. En quoi cette formule change-t-il tout? Un exemple. Le coût d'embauche du personnel de R&D en Chine représente un tiers ou la moitié du coût comparable aux États-Unis. De sorte que les dépenses technologiques de la Chine sont plus proches d'un 1 000 milliards de dollars par an en termes de parité de pouvoir d'achat, alors que les États-Unis ne consacrent que 0,6% de leur PIB, soit environ 130 milliards de dollars, à la R&D fédérale. À un certain niveau, cette formule constitue donc un défi stratégique pour l'écosystème occidental. Dans un coin, les économies stagnantes de l'Europe et de l'Union européenne, hyper financiarisées et alimentées par la dette, dans lesquelles l'orientation stratégique et les gagnants et les perdants économiques sont déterminés par les grands oligarques et dans lesquelles les 60% luttent et les 0,1% prospèrent, et dans le coin le plus éloigné, une économie très mixte dans laquelle le parti fixe un cap stratégique pour les entreprises d'État, tandis que d'autres sont encouragés à innover et à faire preuve d'esprit d'entreprise dans le moule d'une économie dirigée par l'État, quoique avec des caractéristiques taoïstes et confucéennes. Socialisme contre capitalisme? Non, il y a longtemps que les États-Unis ne sont plus une économie capitaliste. C'est à peine si c'est une économie de marché aujourd'hui. Ils sont devenus de plus en plus une économie rentière depuis qu'ils ont quitté l'étalon or en 1971. Cette sortie forcée des États-Unis de la fenêtre de l'or leur a permis, grâce à la demande mondiale de titres de créance américains, obligations du Trésor, de se financer gratuitement à partir de l'excédent économique mondial. Le consensus de Washington garantissait en outre que les afflux de dollars à Wall Street en provenance du monde entier ne seraient jamais soumis à des contrôles de capitaux et que les États ne pourraient pas créer leur propre monnaie, mais devraient emprunter en dollars à la Banque mondiale et au FMI. Et cela signifiait essentiellement emprunter au Pentagone et au département d'État en dollars américains, qui étaient en fin de compte les exécuteurs du système. L'évolution du système financier américain vers une entité qui privilégie les actifs réels, tels que les hypothèques et les biens immobiliers qui offrent une certaine rente, plutôt que d'investir directement dans des entreprises spéculatives, signifie également que les jubilés de la dette sont interdits. Les Grecs peuvent raconter l'expérience de ce que cela implique dans les moindres détails. Le fait est que, sur le plan économique, la sphère hyper-financiarisée des États-Unis se rétrécit rapidement, alors que la Chine, la Russie et une grande partie du monde se tournent vers le commerce de leurs propres devises et n'achètent pas de bons du Trésor américain. Dans une guerre de système économique, les États-Unis se retrouvent donc sur la défensive. Et c'est là le véritable sens de l'économie de la résistance. Iran-Chine seront en faire une alternative.